les ateliers pédagogiques, c'est sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac.
Bonjour ou bonsoir, tout de suite nous vous proposons d'écouter une émission spéciale réalisée par Radio Air d'Otan dans le cadre de la résidence journalistique Flux, conçue et coordonnée par l'association Médiatarn et menée auprès des élèves de 3e 3 du collège Marcel Pagnol de Mazamet. Entre décembre 2025 et mai 2026, une série d'ateliers radio suivis d'une journée de résidence au pôle Art et Culture d'Ossillon ont permis aux élèves de questionner la place de la culture sur nos territoires. Accompagnés de leur professeur de français, Clémence Dumont, ils et elles se sont demandé si la culture était encore importante aujourd'hui pour la jeunesse et comment les acteurs culturels de proximité pouvaient la concerner. Un projet soutenu par le conseil départemental du Tarn et la DRAC Occitanie dans le cadre de son appel à projet éducation aux médias et à l'information.
Ici la culture pour quoi faire, notre regard d'ado.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de l'émission La culture ici, pourquoi faire notre regard d'ado. Cette émission a été réalisée par les élèves de la classe de 3e 3 du collège Marcel Pagnol de Mazamet dans le Tarn, avec l'aide de notre professeur de français, Madame Dumont, et l'accompagnement de l'association Médiatarn et de la radio Air d'Otan. Au programme de cette émission, nous vous proposerons un micro-trottoir, des interviews, des reportages et une critique théâtrale. Pour commencer, vous allez entendre un micro-trottoir sur l'importance des clubs au sein du collège. Lola, Lilou, Jade et Abigail sont allés interroger des collégiens pour connaître leurs avis sur le lien entre les clubs et la culture.
Bonjour, est-ce que tu fais partie d'un club au sein du collège ?
Oui, je fais partie du club MAVA.
Ça consiste à quoi ?
À faire des maths en anglais et faire des activités.
Pourquoi tu as décidé de faire ce club-là ?
Pour m'améliorer en anglais et en maths.
Mais qu'est-ce que ça t'apporte quoi à part t'améliorer ?
Ben, à sociabiliser avec mes amis parce qu'eux aussi font MADA et à faire des activités.
Pourquoi ? Ben, tu fais de la chorale.
Parce qu'en 6e, je voulais y aller mais j'ai oublié de m'inscrire. Et du coup, je voulais l'essayer pour savoir ce que ça fait, ce que c'est. Ben, c'est que moi, j'aime pas les heures d'études ou des heures où je fais rien.
Pourquoi ? Et pourquoi ?
Parce que j'aime pas m'ennuyer.
Non, pourquoi tu fais les échecs ?
Les échecs, parce que mon père, il dit que les échecs, c'est des trucs intelligents. Mais du coup, je voulais apprendre à jouer pour être plus fort que mon père.
D'accord. Pourquoi tu fais le club d'art plastique ?
Et parce que j'aime bien l'art plastique, ça me déconcentre de l'école un peu. J'ai beaucoup de choses que je fais et du coup j'ai envie de mettre un peu de côté, de dessiner, de faire des créatures, enfin de créer.
Est-ce que vous faites partie d'un club au sein du collège ?
Oui, je suis à l'atelier plastique et au club d'échecs.
Pourquoi avez-vous décidé de vous engager dans ce club ?
Parce que les échecs, parce que j'aime bien ça et que le professeur qui le fait est très sympathique. Et l'atelier plastique, parce que j'avais un ami qui le faisait.
D'accord. En quoi votre club vous aide au quotidien ?
C'est rigolo, je m'amuse.
Oui, je fais partie du club théâtre, de l'Occitan, de la chorale et du CVC.
Ok. Pourquoi t'as décidé de faire la chorale ?
Parce que en 6e, il y avait un ami qui y allait. Donc je l'ai suivi et après j'ai adoré, donc j'ai continué à m'inscrire tous les autres années.
Et c'est quoi le CVC ?
C'est le conseil de vie collégienne, donc ça permet de... Par exemple, pour la cantine, etc., c'est pour améliorer la vie au collège. Et donc, on tient des conseils avec la CPE pour pouvoir améliorer tout ça avec les autres élèves.
Pourquoi tu as décidé de faire du théâtre ?
Parce que j'en fais depuis que j'ai 7-8 ans, et donc c'est ma passion. Et j'adore faire des rôles, tout ça, ça permet de me vider la tête.
T'aimes bien faire quoi comme rôle ?
Plutôt les grands-mères, j'aime bien faire les grands-mères.
D'accord. Ça t'apporte quoi, la culture ?
Ça permet d'apprendre plein de choses et c'est assez intéressant. Donc.
Est-ce que ça t'aide à mieux vivre ton quotidien ?
Ouais, ça m'aide parce que ça me permet de vider la tête.
Pour toi, la culture, elle est présente au collège ou pas du tout ? Oui, elle est présente, mais avec les générations, c'est plutôt la culture sur les téléphones qui s'intensifie. Parce que la culture, par exemple, des monuments, je connais certaines personnes qui n'en connaissent quasiment aucun. Que sans culture, on ne vivrait pas, parce que la culture, c'est un peu un sens de la vie aussi. Sans culture, il n'y a pas de vie.
Pourquoi tu fais le club théâtre ?
Parce que j'aime bien le théâtre. Parce qu'en sixième, on faisait du théâtre, un petit peu, et moi, ça m'a plu. Et je voulais en faire, et bien je l'ai fait. Et j'en profite, c'est très bien.
Au collège, je participe au club théâtre, chorale, CVC, ambassadeur anti-harcèlement, et aussi aux échecs, et à PPL.
Qu'est-ce que la chorale t'apporte au quotidien ?
La chorale permet de m'aider à entendre ma voix et à un peu plus me sentir moi-même, parce que depuis tout petit, j'ai des gros problèmes pour entendre ma propre voix. J'ai décidé de faire tous ces clubs parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup participer, qui aime beaucoup vivre pour aider les gens, et surtout parce que ça me dérange pas de m'ennuyer, mais m'ennuyer trop, ça me dérange.
Je fais partie du club théâtre.
Qu'est-ce que tu fais au théâtre ?
Ben, en premier, on fait l'échauffement du corps, puis la voix. Et après, il y a une comédienne qui nous aide à mettre en scène notre projet. Et voilà.
Qu'est-ce que ça t'apporte ?
Ben, déjà, ça me fait prendre confiance en moi. Ça m'aide à mieux parler français.
Que tu trouves que ça devrait être obligatoire au collège d'en faire ?
Alors, pas obligé de faire un spectacle à la fin de l'année, mais faire, par exemple, les échauffements, moi, je pense que oui, parce que ça nous aide à prendre confiance et personne ne se juge.
Qu'est-ce que tu fais au collège ?
Bonjour, je fais partie du club de circuit training.
Pourquoi t'as voulu être au circuit training ?
Parce que j'aime bien le sport et aussi la musculation. J'aime bien aussi parce que avant je faisais de la gym et c'est pour garder ma souplesse et ma force physique, on va dire.
En fait, circuit training, ça consiste surtout à quoi ? Genre, tu peux faire plusieurs choses dedans ou juste une chose en particulier ?
Alors, on peut faire plusieurs enchaînements. Ben, déjà, les squats, les pompes, les abdos. Il y a plein d'autres exemples.
Pour continuer notre émission, on vous propose maintenant de découvrir une interview de Kamel Jalta, comédienne et metteuse en scène. Jennifer et Marion sont allées à sa rencontre juste avant la représentation de la salle de théâtre.
Comment ça va ?
Ça va, et vous ?
Ça va, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors je m'appelle Kamel Jalta, je suis metteuse en scène et professeure de théâtre. Je suis parisienne, je suis arrivée dans la région il y a 5 ans avec le projet d'ouvrir un théâtre et d'essayer de monter des spectacles un peu partout.
C'est quoi votre parcours professionnel ?
Alors, j'ai passé mon bac littéraire et ensuite j'ai intégré le conservatoire du 15e de Paris en art dramatique, le conservatoire régional de Paris, d'autres formations. J'ai joué en tant que comédienne et j'ai monté ma compagnie aussi. Et voilà, aujourd'hui, la compagnie a déménagé ici dans la région. Et notre activité principale, c'est de monter des spectacles avec des amateurs.
Qu'est-ce que vous voulez transmettre en faisant du théâtre ?
Je pense que le théâtre nous aide à vivre, à être de meilleurs humains, je dirais. que avoir confiance en soi et ne pas avoir peur des autres, ça aide le monde. Et le théâtre est le meilleur outil pour ça.
Est-ce que vous enseignez le théâtre de la même manière chez les adultes et les jeunes ?
Non. non, disons que avec les adultes, ça va être plus cérébral. On va pouvoir faire un travail de texte plus poussé, on va dire. Ce qui ne veut pas dire que chez les jeunes, ce n'est pas possible, mais disons qu'il y a quelque chose plus de corporel, de lâcher prise. Les enfants, c'est encore différent aussi. Là, pour le coup, eux, c'est de l'amusement. Donc, c'est plus difficile parfois de mettre de la rigueur ou de les embarquer vers un texte qui dit des choses, quoi.
Vous avez dit que vous enseignez à des amateurs. Pourquoi choisir les amateurs ?
Parce que pour moi, c'est le champ des possibles, en fait. Tout est possible. J'aime bien aussi quand on se dit qu'on n'est pas capable et qu'en fait, finalement, on a tous ces ressources-là. Donc, j'aime bien ça. quand c'est pas acquis, en fait.
Est-ce que vous intégrez d'autres arts dans votre travail ?
Bien sûr. Je suis chanteuse aussi, donc j'aime beaucoup ajouter de la musique. Je suis en train de créer un spectacle concert-théâtre, donc oui, évidemment. Après, sachant que je viens d'arriver dans la région, là, ma mission, c'est un peu de trouver d'autres artistes, des vidéastes, des musiciens, musiciennes, pour élargir encore plus.
Vous chantez pour le théâtre ? Ou juste, vous pouvez écrire un album.
Je suis en train d'écrire un EP. Donc l'idée, c'est de faire des concerts théâtralisés. Mais sinon, c'est de la musique.
Pourquoi vous avez voulu apporter de la culture dans un lieu rural ?
Ben, c'est un peu la même réponse que pourquoi est-ce que je fais du théâtre avec des amateurs. Parce que dans le milieu rural, c'est aussi le champ des possibles. C'est comme s'il y avait tout à faire, en fait. Venant de Paris, où c'est saturé, et il y a plein de choses qui sont proposées de partout. Ici, il faut les créer. Et ça, ça me plaît bien.
Vous avez préféré travailler à Paris ou plutôt ici ?
Ici.
Ça vous a fait un gros changement quand vous êtes venue ici ?
C'était un gros changement, mais c'était nécessaire, en fait. J'avais besoin de retrouver du sens et que les choses soient plus simples, on va dire. En fait, surtout dans le milieu artistique, quand on est trop sollicité, au bout d'un moment, on a un nuage dans la tête. Alors qu'ici, en fait, la nature nous nourrit aussi. Et puis, il y a une simplicité que j'aime bien.
Est-ce que vous pensez que c'est démodé ?
C'est la question qui m'a fait rire tout à l'heure. Absolument pas.
Pourquoi ?
La culture.
Qu'est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui ?
Ben, en fait, la culture, elle est en nous, c'est vivant, ça bouge. C'est comme une entité, c'est une énergie. Donc, elle est en chacun de nous. Dès qu'on est enfant, on crée. Quand on joue avec des poupées, avec des Legos, on se crée des mondes imaginaires. Donc non, j'espère pas que c'est un truc de vieux.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission La culture ici, pourquoi faire ? Notre regard d'ado, réalisé par les élèves de 3e 3 du collège Marcel Pagnol de Mazamé. On vient d'entendre Kamel Jalta nous parler de théâtre. Maintenant, nous allons parler de sport. Peut-être une autre forme de spectacle. On s'est demandé si le sport faisait aussi partie de la culture. Pour répondre à cette question, Nolan, Jordan, Axel et moi, nous avons choisi d'interviewer un joueur qui vient de chez nous. Ce joueur, c'est Samy Benchama.
En effet, Arthur, Samy Benchama est un joueur de foot évoluant en Ligue 2 à Rodez. Il a 25 ans, il est né à Castres. Un enfant qui vivait à Mazamé et qui joue au foot. C'est vraiment un modèle pour nous. Revenons un peu sur son parcours. Après être passé au Pôle Espoir de Castelmouron, puis à Montpellier, avec les moins de 16 ans, il a signé en 2020 son premier contrat pro à Montpellier. En 2021, il a rejoint Niort pour ensuite passer à Sochaux et arriver à Rodez.
Avant d'aller plus loin dans l'interview, on voulait vous faire écouter un petit extrait d'une reprise du Temps de l'amour de François Zardy par Bon Entendeur. Samy, comment vas-tu ?
Ça va et vous ?
Ça va très bien. Comment se passe cette saison à Rodez ?
Ça se passe super bien. On fait une bonne saison. Tout se passe bien pour moi et pour l'équipe. C'est positif et voilà, on a une fin de saison qui est excitante et c'est cool.
D'accord, parfait. Et quelles sont tes relations avec les supporters ?
Avec les supporters à Rodez, on a une très bonne relation. Parce que c'est une ville qui suit beaucoup le foot. Du coup, ils sont derrière nous, ils nous soutiennent beaucoup pendant les matchs à domicile. Ça nous donne une force supplémentaire. Voilà, on est une équipe très dure à jouer à domicile et c'est grâce en partie aux supporters qui sont derrière nous à tous les matchs et qui sont surtout bienveillants et qui amènent de la positivité à chaque fois qu'on les croise.
Ok. Et est-ce que avant les matchs, tu as des rituels, t'écoutes une musique ou quelque chose comme ça?
J'ai pas forcément de rituel particulier, mais au niveau de la nourriture, ouais, je mange tout le temps la même chose avant les matchs. Je bois à chaque fois les mêmes choses aussi. Mais sinon, musique, ouais, j'ai une playlist exprès pour les matchs, mais j'ai pas une musique en particulier. Et voilà, après, je me mets dans ma bulle et voilà.
On aimerait savoir quelle est la place du foot dans ta vie.
Ben, la place du foot dans ma vie, le foot, ça a une très grande place. C'est depuis tout petit, il y a une très grande place dans ma vie. Et aujourd'hui, j'en fais mon métier, c'est-à-dire que ben, elle a une place d'autant plus importante. Mais c'est clair qu'elle a une grande place dans ma vie et j'en suis content.
Ok, et quelles sont les choses les plus importantes dans le foot pour toi ?
Les choses les plus importantes dans le foot, ben, c'est d'abord le plaisir, parce que c'est un sport de plaisir. Quand tu commences le foot quand tu es petit, ben, de base, c'est pour le plaisir et jouer avec tes collègues. Après, c'est sûr que quand tu grandis et que ça devient ton métier, ben, ça, c'est, y a aussi de l'exigence que tu n'as pas quand tu es jeune. Et voilà, après, il y a plusieurs notions comme l'état d'esprit, l'esprit d'équipe, et ça te fait aussi grandir en tant qu'homme. Le respect, ça t'amène aussi des valeurs que les gens ne voient pas forcément, mais le foot a des valeurs qui peuvent te faire avancer dans la vie aussi.
Et prends-tu autant de plaisir de jouer au foot que quand tu étais petit ?
Ouais, j'ai eu une période où non, mais quand les saisons se passent bien, oui, c'est plus facile. Mais après, quand tu es petit, c'est sûr que tu en prends plus. Voilà, quand tu es petit, tu fais des tournois, tu es avec tes collègues, tu es avec tes amis d'enfance. Et voilà, et plus tu grandis, ben, plus ça devient très, très compétitif, où il faut gagner ta place, la concurrence. Voilà, être professionnel, mais c'est dur, c'est pas donné à tout le monde. Et quand tu y es, après, il faut switcher et penser que c'est plus qu'un plaisir. Mais après, ça reste toujours une passion. Du coup, je prends du plaisir sur le terrain.
D'accord. Samy, on voulait savoir si tu étais fier de ton parcours.
Ouais, j'en suis fier. Ouais, j'en suis fier parce que c'est ce que je voulais faire depuis tout petit. J'avais pas d'autre alternative, on va dire. Je pensais qu'à ça et je me voyais pas autre part que sur un terrain de foot. Et donc oui, j'en suis fier parce que voilà, c'est beaucoup de sacrifices invisibles que les gens ne voyaient pas. Ils pensent que le foot, ben voilà, c'est... Moi, mes profs, quand j'étais petit, me disaient, ouais, je veux être footballeur. Ils me disaient, c'est pas un métier, etc. C'est très dur, mais après, voilà, c'est les avis de chacun. Mais ouais, j'en suis fier.
Est-ce que tu pourrais partager le meilleur souvenir que tu as du foot avec nous ou pas ?
Ben, mon meilleur souvenir, c'est ma signature de mon premier contrat professionnel à Montpellier. J'avais 18 ans et voilà, c'était le Graal entre guillemets. C'est après toutes ces années de formation, mais là, on t'apprend que ça va devenir ton métier en gros et que après, le plus dur reste à venir. Mais c'est là où j'ai compris que voilà, je rentrais dans la cour des grands et que voilà, ce à quoi je pensais depuis que j'étais petit, mais c'était un peu l'aboutissement.
D'accord. Et on aurait aimé savoir comment tu as commencé le foot.
Mais j'ai commencé le foot à 4 ans et j'ai commencé le foot parce que voilà, c'était le sport qui me disait le plus, on va dire. Après, j'ai alterné foot et basket jusqu'à 10 ans, parce que j'étais quand même pas mal au basket aussi. Du coup, ben, je faisais les deux. Et après, à 10 ans, j'ai choisi de faire que le foot parce que voilà, c'était plus possible d'alterner les deux. Mais j'ai du foot parce que voilà, mes parents n'étaient pas spécialement douteux, mais à la télé, ben, c'était le foot. Même quand tu sors dehors, en vrai, la première chose que je prenais, c'était un ballon de foot parce que c'est la chose la plus simple aussi. Et du coup, voilà.
D'accord. Et est-ce que pour toi, le foot a une culture en particulier ?
Ouais, pour moi, le sport est une culture. Enfin, c'est ce qu'on m'a inculqué aussi. Parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, l'état d'esprit, le respect, ben, la rivalité aussi avec les adversaires que tu as, tout ça, ben, pour moi, c'est de la culture parce que ça te fait grandir et t'apprends des choses aussi humainement, comme je disais tout à l'heure. Et ouais, pour moi, le foot est une culture. Après, il y en a qui le voient différemment, mais... Ouais, c'est pour moi, le foot est une culture.
Et pour finir, est-ce que pour toi, le foot est une forme de spectacle ? C'est-à-dire, genre, les caméras, elles influencent les adversaires, enfin, genre, leur...
Ouais, le foot est... Ben, à haut niveau, je pense ben, que le foot est un spectacle, oui, parce que c'est télévisé, il y a les caméras partout, les photographes, etc. Et que un spectacle, pas dans le genre où tu dois, toi, changer ta personne et te donner un genre, mais... Et voilà, tu sais que tu as des choses à ne pas faire ou que tu ferais dans un terrain où il n'y a pas de caméra. Ou voilà, même on te dit qu'aujourd'hui, il y a combien de caméras, il y a tel photographe, faire attention à tes gestes parce que aussi tu influences des jeunes qui te regardent à la télé, etc. et avoir une bonne image, et même pour l'image du club, c'est important de montrer les bonnes valeurs. Et ouais, voilà.
Les caméras, ça change l'attitude des joueurs sur le terrain. Le fait qu'il y ait des caméras, beaucoup de supporters.
Mais les supporters, je pense que ça te change positivement parce que ça te transcende. Quand tu entends, par exemple, quand tu es mené au score et que tu entends les supporters te pousser et tu les entends plus que. Tu n'entends même plus l'arbitre à côté de toi, c'est que ouais, ça te pousse et tu vois que tu as du monde derrière toi et c'est important, je trouve. Après, les caméras, ça dépend des gens. Il y a des gens, oui, ça les change. Ils vont faire peut-être plus de manières ou quoi, mais en tout cas, personnellement, non, parce que. Au fil des matchs, tu prends l'habitude, tu sais que tous tes matchs sont télévisés, du coup, ben, tu penses plus trop. Et le plus important, c'est d'être le plus naturel possible.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Samy, pour cette interview.
Merci à vous, c'est avec plaisir. C'était avec plaisir, en tout cas.
Bonne journée.
Merci à vous aussi.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission La Culture, ici pour quoi faire. Notre regard d'ado, réalisé par les élèves de 3e 3 du collège Marcel Pagnol de Mazamet. Maintenant, voici un reportage fait par Lilou, Emma, Amel et Wassim sur l'espace Nougaro situé à Océan.
Majda Zouli, tu travailles à l'espace Nougaro. Tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors, l'espace Nougaro, c'est une structure qui est divisée par plusieurs pôles. Donc, on a la médiathèque d'un côté, on a l'espace de vie sociale et ensuite, on a les locaux du programme de réussite éducative pour lequel je travaille. C'est un dispositif de l'État. Donc, on travaille avec des enfants de 2 à 16 ans qui sont essentiellement sur le quartier de la Falgalarie, donc un quartier politique de la ville. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale qui nous envoie des enfants qui ont certains besoins ou certaines problématiques sur lesquelles on va travailler nous ensuite pour les accompagner et les suivre pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc du coup, on fait des accompagnements individualisés par enfant selon les besoins sur lesquels on nous les a renvoyés. Donc ça peut être sur plusieurs problématiques, ça peut être du psychosocial, sur du culturel, sur du scolaire. En tant que référente de parcours avec mes collègues, on redirige les enfants sur des ateliers qui se font ici sur la structure. Donc après l'école, à partir de 16h30, les enfants sont ici avec nous sur plusieurs ateliers. Donc on peut avoir du coaching scolaire. On a de la sophrologie, on a du yoga, on a du théâtre, on a de l'art créatif, de l'art-thérapie, de la musicothérapie aussi. On est aussi sur des ateliers ponctuels, donc sur la culture. Ensuite, on fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses selon le besoin qu'on repère et ce qu'on peut nous demander.
Et toi, qu'est-ce que tu fais concrètement au sein du PRE ?
Du coup, mon poste, c'est référente de parcours. Donc, moi, j'accompagne et je suis là actuellement avec ma collègue Cathy Debèvre, 123 enfants sur Océan. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fait un parcours personnalisé, individualisé par enfant. Donc, selon les besoins et les problématiques repérées par l'éducation nationale ou par nous pendant l'accompagnement et le suivi ou par les intervenants. Donc, c'est-à-dire qu'on est beaucoup en relation avec les familles. On fait un travail d'accompagnement à la parentalité aussi.
Sofiane Adouche, est-ce que tu pourrais nous expliquer ta place dans le PRE ?
Alors, ma place dans le PRE, donc moi, je suis éducateur en prévention spécialisée. Je viens... En complément du PRE, je peux mener des actions donc comme la danse. Donc c'est des cours de danse, c'est du breakdance que je pratique.
Est-ce que tu as l'impression que les actions avec le PRE ont du succès envers les jeunes ?
Du succès, oui, énormément, parce que ça apporte un plus pour les jeunes, pour certains qui peuvent avoir des difficultés. Le fait de travailler la danse permet de, pour certains, travailler la coordination. Savoir se déplacer dans l'espace, donc ça c'est quelque chose de hyper important. Pour certains jeunes, ils sont vachement timides, donc on travaille aussi ça.
Tu utilises la danse comme outil, de quelle manière peux-tu nous en parler davantage ?
J'utilise pas forcément la danse pour en faire des champions, d'accord ? C'est vraiment un outil pour permettre de travailler sur de l'éducatif. Hein, on est vraiment dans ça.
Que penses-tu du PRE ?
Je pense que le PRE, c'est une chose bien pour nous, parce que ça nous aide niveau scolarité, même qu'on puisse plus sortir, et que ça aide à avoir un peu plus de liberté.
Qu'est-ce que ça t'apporte alors ?
Ben, je peux voir plus mes amis, je peux aller faire des sorties que de base je ne fais pas, parce que les parents ils sont pas tout le temps là, et on n'est pas obligé de payer pour y participer, donc c'est quelque chose de très bien.
Quels sont tes ressentis vis-à-vis des activités que propose le PRE ?
Les activités sont très bien parce qu'ils s'adaptent par rapport à nos goûts et par rapport à notre personnalité. Donc je trouve que les activités qu'ils choisissent sont très bien et ça aide aussi à plus nous amuser.
Merci à Emma, Lilou, Wassim et Amaël pour ce reportage réalisé à l'espace Nogaro à Océan. Nous changeons à présent d'invité et nous retrouvons Mathieu Saint-Péry, responsable programmation de l'espace Apollo, et Jonathan Calves, directeur de la MJC de Mazamé depuis juin 2025. Ce sont deux structures qui sont présentes depuis plus de 20 ans dans la ville de Mazamé et nous voulions en apprendre davantage sur leur présence de la culture dans ces différents lieux. Et pour ce faire, nous allons vous poser une série de questions.
Bonjour, nous avons une question pour Mathieu Saint-Péry. Nous avons vu que l'espace Apollo était un centre culturel et aussi une association. Pouvez-vous expliquer quand, pourquoi et par qui a-t-il été créé ?
Alors bonjour à tous. Déjà, l'espace Apollo, oui, comme son nom l'indique, c'est un espace, donc un centre culturel avec une médiathèque au rez-de-chaussée, un cinéma avec 4 salles de cinéma, dont une très grande, et une des salles de cinéma sert de salle de spectacle. Ce centre a été créé il y a 30 ans. On vient de fêter les 30 années de l'espace Apollo, créé par Michel Bourguignon, qui était le maire de Mazamé à l'époque. Voilà.
Okay, merci. Nous avons une question pour Jonathan Calves. Nous avons vu que la MJC est une association d'éducation populaire. Expliquez-nous qu'est-ce qu'une éducation populaire ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi qu'est-ce qu'une MJC, s'il vous plaît ?
Bonjour, merci pour l'invitation. L'association MJC Centre Social de Mazamé est effectivement une association d'éducation populaire. L'éducation populaire, ça sous-entend un mouvement, une pensée, où on va retrouver le public qui va créer par la jeunesse, par les adultes, pour la jeunesse et pour les adultes. Donc c'est pas quelque chose de vertical, c'est vraiment du partage. Et MJC, donc Maison Jeunesse et Culture, ça aussi c'est un mouvement qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, où à chaque fois le but du jeu c'est de mettre en avant la jeunesse, vous, en amont de cette maison, de la création de clubs, la création de projets. Et encore une fois, dans l'éducation populaire, c'est création par les jeunes, pour les jeunes.
Ma question s'adresse à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les diverses activités culturelles présentes dans vos locaux, s'il vous plaît ?
Tu veux que je commence ?
Allez.
Bon, d'accord. Donc, à l'espace Apollo, donc nous l'avons dit, de la lecture, des livres, des thèmes, des conférences, pour la partie médiathèque, du cinéma. Donc ça, vous connaissez, ça peut être tout type de film, on pourra en parler. Et là, il y a un directeur du cinéma, c'est-à-dire quelqu'un qui va choisir les films, qui s'appelle Damien. Et puis moi, je me charge de toute la programmation de la partie culturelle et spectacle vivant, c'est-à-dire du théâtre, qu'il soit du théâtre classique ou du théâtre contemporain, du théâtre moderne. On peut parler de Molière, ou on peut parler d'un auteur qui vient d'écrire une pièce, et on peut les voir également donc à Mazamé, de la musique. Dans la musique, ça va de la musique classique, jazz, variété, de la pop et plus encore, et de la danse. Voilà, et de la danse, c'est pareil, de la danse classique jusqu'à tout type de danse. Voilà. Donc la scène est ouverte, c'est une magnifique scène, et donc danse, musique et théâtre.
Et donc pour la MJC Centre Social de Mazamé, c'est une trentaine de clubs d'activités, alors activités culturelles, sportives. C'est aussi un accueil de loisirs à partir de 5 ans jusqu'à 17 ans et 364 jours. On accueille donc la jeunesse les mercredis et pendant les vacances. Et puis, c'est aussi une activité culturelle avec une petite scène beaucoup plus modeste que l'Apollo, bien entendu. Un café-théâtre, à peu près 70 à une centaine de places en termes d'accueil. Une programmation qu'on relance tout doucement. On essaye d'être sur quelque chose de contemporain, de moderne, en direction de la jeunesse. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais on a eu dernièrement une résidence artistique avec un groupe venu d'Amérique latine et on est en train de travailler quelque chose autour d'une scène ouverte, micro en direction de la jeunesse de type beatbox, mais aussi rap et probablement pendant la fête de la musique, pour vendre la mèche, un petit peu de techno-minimaliste.
Monsieur Saint-Péré, vous nous avez parlé des films et des types de spectacles qui étaient proposés donc, à l'Apollo, mais est-ce que c'est vous qui choisissez les spectacles et les films qui sont projetés ?
Alors non, moi je me charge essentiellement de la partie spectacle vivant. Pour les films, donc, y a un programmateur de cinéma qui est là, donc Damien qui fait ses choix de films. Donc il va avoir dans les petites salles, souvent bien évidemment, des films qui sont déjà passés ou des films d'art et d'essai, avec des thèmes précis, des fois en accord avec des écoles, des fois en accord avec des associations, des fois tout simplement c'est un thème, c'est un film qui vient de sortir, mais qui n'est peut-être pas un film très grand public, on n'est pas sur Avatar numéro 17, donc il a besoin d'une petite salle, voilà. Et puis il y a les grands films évidemment qu'on voit dans tous les grands centres et espaces de cinéma, et nous avons cette chance d'avoir ça à quelques minutes, qu'on soit à Ossion ou à Mazamet ou dans les villages autour, d'avoir voilà, un espace avec quand même quatre cinémas et du spectacle vivant à l'Apollo. Donc c'est... Voilà, vous pouvez... Alors là, je vends la mèche, là aussi, mais pour un prix modique par rapport à d'autres villes, vous divisez par 3 le prix d'une place dans la grande ville d'à côté, par exemple.
Ok, merci. Nous avons une question pour Mathieu Saint-Péré. Quelle sorte de film projetez-vous ?
Alors, quelle sorte ? Tout ce que vous avez envie de voir. Et si vous voulez des films spécifiques au niveau scolaire, par exemple, qui rentrent dans le programme de l'année, dans ce cas-là, vous allez directement vous adresser au programmateur. Et puis, il y a des séances qui peuvent être dédiées voilà, à vos classes, à vos écoles. C'est tout à fait possible. Vous avez dû sûrement aller déjà dans cet espace Apollo et dans les salles, peut-être pour en période de Noël, pour un spectacle ou... évidemment un film sur le thème de Noël offert par la mairie. Si c'est pas le cas, ben, on va appeler monsieur le maire et puis ce sera le cas pour Noël prochain.
Toujours pour monsieur Saint-Péré, comment sont choisies les pièces de théâtre ou les films?
Alors pour les pièces de théâtre, donc ça c'est ma partie, comment c'est choisi? Je parle de j'ai un mot qui revient que certains n'aiment pas, c'est populaire. Pour moi, un lieu de spectacle et de spectacle vivant doit avoir un public. Et le public doit s'y retrouver. Et pour cela, il faut des pièces qui plaisent au public. Que ce soit de la musique, il faut de la musique qui plaît au public. Que ce soit des spectacles de théâtre. Voilà, il faut rencontrer son public. Ça n'empêche pas, évidemment, quand le public est là et fait confiance à un programmateur, d'apporter des choses qui sortent de l'ordinaire et qui le font réfléchir. La culture est là pour ça, poser des questions, réfléchir. Mais je ne suis pas fermé à, par exemple, ce soir, vous avez Ziz qui vient, qui est un one-man show. Et Ziz, vous l'avez sur les grosses têtes, émission des grosses têtes, voilà, sur une radio concurrente de la vôtre, il faut le dire. Voilà. On ne peut pas la citer, mais voilà, on peut le voir à la télé, on peut le voir un peu partout. Et donc, lui, il vient à Mazamet, voilà, il tourne partout en France. Et c'est un transformiste qui a son spectacle. C'était un comédien avant tout. Et j'ai découvert chez Michou à Paris, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et je me suis dit, c'est l'occasion de le faire venir parce qu'il a vraiment un très bon spectacle. Donc, il va rencontrer son public ce soir. Et puis après, il y aura des pièces de danse contemporaine qui rencontreront un autre public. Le but, c'est que chacun d'entre vous, chaque individu, tel que vous êtes tous, là, vous les jeunes, vos parents, vos grands-parents, vos amis, que chacun puisse s'y retrouver. Alors, peut-être que vous n'allez pas être attiré par toutes les musiques. Peut-être que vous préférez le jazz à la musique classique. Peut-être que vous allez préférer le spectacle contemporain à un Racine, un Molière ou je ne sais pas, un Marivaux. Mais Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et donc, ce côté éclectique me semble très important.
Quelles sont les compagnies ou associations principales qui viennent présenter leur spectacle ?
Alors, dans une programmation comme celui de l'espace Apollo, c'est un lieu déjà qui appartient à la Comcom, le bâtiment, donc intercommunal. Ce qui veut dire qu'il y a un budget, il n'y a pas de privé qui dirige ça, ce n'est pas un producteur privé. Par contre, moi, en tant que programmateur, je vais faire appel à des compagnies, parce que, voilà, des compagnies qui me proposent des spectacles. Et en fonction du type de spectacle dont j'ai besoin, je vais me rapprocher de certaines compagnies. Il est évident qu'on ne peut pas avoir, si on parle de musique, Big Flo et Oli. Ah, ils ne m'ont pas dit oui pour le Mazamé, parce que la scène est trop petite. Il faut voir par rapport à un budget, par rapport à une taille, évidemment, de scène et une taille de spectateurs, donc une jauge, ce qu'on appelle une jauge. La grande salle de l'Apollo fait 300 places. Donc, par rapport à cette jauge-là, il y a un tarif. Et évidemment, je vais m'adresser à des compagnies qui rentrent dans ce tarif-là. Donc, il y a quelques personnes très connues qui viennent. J'ai fait venir cette année, par exemple, Alexandre Pell, qu'on voit dans Caméra Café, qui a écrit Caméra Café, ce qu'on voit, donc voilà. Et puis des têtes connues, notamment Pouzoulou, qui joue à la Comédie Française, qui est un acteur de la Comédie Française, que vous avez dans Le Plus Grand Soleil, par exemple, pour ceux qui regardent ces séries. Ces gens-là, on peut les faire venir. Et puis, je m'adresse avant tout à des compagnies locales. Alors, local, pour moi, c'est Occitanie, dans un rayon de 200 km, de Montpellier à Toulouse et plus haut, évidemment réduire, parce que le budget est toujours le nerf de la guerre, faire que le budget alloué aux artistes revienne aux artistes et pas seulement aux frais à la SNCF et à l'essence. Donc, il va y avoir beaucoup de compagnies occitanes, donc locales, entre guillemets, de haut niveau. Et puis, après, on va faire appel à d'autres artistes venus de toute l'Europe.
Merci. Nous aimerions savoir, pour Jonathan Calves, quelles sortes d'activités sont proposées à la MJC et pour qui ?
Alors, on accueille du tout public. Je disais que les enfants sont accueillis à partir de l'âge de 5 ans, mais on est en train d'ouvrir des ateliers parents-enfants pour accueillir les tout-petits, majoritairement le vendredi matin. C'est un test qu'on est en train de faire. Les activités, elles sont diverses et variées. J'ai entendu beaucoup de clubs d'échecs sur le collège Pagnol. On a aussi ce type d'activité. Mais on a aussi du tricot, on a de la cuisine, parce qu'on a des personnes un peu plus âgées qui apprécient ce type d'atelier. L'essentiel aussi, dans une MJC, c'est de pouvoir travailler avec les jeunes. Vous me posiez la question de l'éducation populaire. C'est d'avoir cette possibilité, quand vous venez à la rencontre de la MJC, de dire, voilà, on a un projet, on voudrait monter un séjour itinérant à l'étranger. Et dans ce cas-là, Naël, Shana, qui sont les animateurs jeunesse, vont aider la jeunesse à monter ce type de projet. On a aussi du théâtre, on a du chant, on a des cours de langue, on a de la Zumba, on a du crossfit. Donc voilà, sportif, expression et autres. Et encore une fois, c'est un lieu ouvert à tous, dont les projets se construisent avec le public. On est ouvert du lundi au vendredi, mais s'il faut ouvrir un dimanche parce qu'il y a un projet de one-man show, de stand-up à mettre en œuvre avec un artiste local, mais aussi un artiste un peu plus conséquent, l'objectif, c'est vraiment de le créer avec le public et avec la jeunesse avant tout.
Toujours pour M. Calves, organisez-vous des sorties pédagogiques et dans quel but ?
Alors, on organise effectivement des sorties. Donc, encore une fois, soit c'est la jeunesse qui nous le demande, soit on programme. Là, par exemple, deuxième semaine des vacances de Pâques, on organise un séjour 3 jours et 2 nuits. L'année dernière, la jeunesse est partie en Espagne. J'ai un responsable enfance qui est en train de travailler, peut-être pour 2027, je l'espère, un séjour à Madagascar avec un objectif plus solidaire et humanitaire cette fois-ci. On a des sorties, alors ça peut être au musée local, à la médiathèque, ça peut se faire en rencontre avec d'autres MJC, puisqu'on a la chance sur le département du Tarn d'avoir une cinquantaine de MJC fédérés autour d'une fédération départementale. Fédération départementale qui propose aussi d'autres projets pédagogiques, éducatifs et culturels. On a eu dernièrement un projet autour des danses urbaines et contemporaines. On a, au mois d'avril, le 30, avec le Bollégason, un atelier et une représentation du soir autour des musiques urbaines, donc du rap, du mix, du scratch. Et on a d'autres sorties qui reprennent l'intergénérationnel. Au mois d'octobre, on travaille avec l'association départementale des randonnées du Tarn, où on va aller se balader à côté d'Escoussins et découvrir la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale dans la montagne noire. Donc vous voyez, c'est extrêmement varié, culture, sport, intergénérationnel, dans tous les cas, et je le redis, avec la jeunesse et en création avec la jeunesse.
Ok, toujours pour Jonathan Calvez du coup. On a appris que la MJC elle organisait des journées pour faire les devoirs. Donc ça veut dire que la MJC elle a un impact sur la scolarité des jeunes et sur leur rapport à la culture.
Oui, totalement. Alors bah, vous le savez mieux que moi, puisque Naël et Shana, encore une fois, nos animateurs jeunesse interviennent sur le collège Pagnol plusieurs midis par semaine à travers un dispositif qui s'appelle l'ALAC, qui est donc le centre de loisirs externalisé sur le collège. Mais on intervient aussi avec le collège Jean-Louis Etienne. On est en train de créer du lien un peu plus fortement avec le lycée hôtelier. J'ai rencontré la cité scolaire et les différents lycées dernièrement. On a de l'appui à la scolarité sur la MJC, donc plutôt le site de centre-ville, tous les soirs en semaine. Et on vient de créer un tout nouveau projet sur le centre social, donc Place Lalose, où le jeudi soir, on accueille un petit groupe d'enfants qui viennent plutôt de l'école de Lalose sur de l'accompagnement à la scolarité. Alors, le but, c'est pas de forcément faire les devoirs uniquement, c'est aussi de sortir, c'est de prendre un bouquin, de discuter autour d'un bouquin, c'est de discuter autour de la programmation culturelle de Mazamé et de voir comment est-ce qu'on peut faire des sorties. Mais de toute façon, l'éducation populaire et l'éducation nationale ne sont jamais très loin l'une de l'autre, et c'est ce en quoi on va tâcher de concourir.
Donc, tout ça, ça leur ouvre leur esprit à la culture et à la découverte de nouvelles choses.
Oui, c'est le but du jeu. Encore une fois, la MJC, c'est un lieu qui est ouvert sur son territoire, et d'ouvrir à l'autre, d'ouvrir à la culture, c'est de poser la question à la jeunesse, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, et d'essayer de le créer avec vous, et aussi de proposer des choses différentes. Voilà, Mathieu parlait de jazz. Pour le 12 juin prochain, sur notre Assemblée Générale, on aura la finalisation avec un duo féminin autour du jazz. Mais on va aussi tâcher d'ouvrir et de relancer la saison culturelle et la programmation de la MJC, qui s'était un peu éteinte ces dernières années, avec de nouvelles programmations atypiques. Je parlais de techno-minimaliste. L'artiste s'appelle Melrose. Elle est locale. Elle jouera pour la fête de la musique sur un setup. Et l'open mic qui aura lieu le 15 mai prochain. Donc j'invite vraiment la jeunesse à venir tenter sa chance et prendre le micro, non pas derrière le micro de la radio cette fois-ci, mais sur une scène, pour se tenter à la chanson française, au rap ou autre. En tout cas, voilà, ouais, c'est vraiment notre job et notre passion que de faire en sorte que de l'éducation populaire ou de l'apprentissage, on arrive en direction de la culture, parce que j'ai beaucoup aimé le reportage tout à l'heure sur la culture. C'est quoi ? C'est un souffle de vie dont on a nécessairement besoin.
Merci. On aurait une question pour Mathieu Saint-Péret et Jonathan Calvez. Est-ce que et comment les acteurs collaborent sur le territoire ?
Les acteurs, c'est nous, du coup.
On collabore ensemble.
On collabore, bah justement, on est là. Interview croisée, il est écrit. Et c'est vrai qu'on a décidé, on est tous les deux nommés depuis un an à peine. Donc on est tout nouveau sur le territoire. Et puis on a envie de continuer ce qui a été bien fait et puis de faire bouger encore plus, puisqu'on a nos propres idées. Donc il y avait véritablement un partenariat entre nous, donc entre l'Apollo et la MJC, qui est en train de se tisser. Et c'est le but, parce que l'un comme l'autre, on fait ça pour le public, pour les adhérents, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tout le monde, pour l'humain et pour les rencontres. La culture, c'est ça. Je sais pas ce que tu...
Totalement d'accord. Ça, c'est tout nouveau avec Mathieu, de pouvoir créer du lien, effectivement, entre l'Apollo et la MJC. C'est vrai que je remercie Mathieu, par exemple, d'offrir de la réduction tarifaire, notamment sur des événements. On a, par exemple, demain soir, vendredi 17 avril, un grand loto. Donc il y a des places qui ont été offertes par l'Apollo au niveau du cinéma, mais ça peut être sur du spectacle. La culture, dans son lien avec les partenaires, c'est aussi d'aller chercher ce qui se fait en local à Mazamé, mais c'est aussi de tisser des choses un peu plus conséquente et encore une fois de faire venir de la culture de grandes villes comme Montpellier, Toulouse, c'est découvrir des choses, c'est aussi voir des artistes un peu plus difficiles d'accès pour aller sur des grandes salles ou qui aient un coût, mais encore une fois c'est de travailler avec des partenaires locaux, des compagnies, des clubs, des associations qui ont la volonté de monter sur scène. Mathieu disait tout à l'heure Big Flo et Oli, qui sait, un de ces quatre on tentera peut-être de les faire venir sur le territoire. Moi, je vais les voir normalement dimanche, donc je leur en toucherai deux mots.
Tu leur dis, leur père vient souvent au Sillon, donc tu
exactement,
peux leur dire.
C'est vrai, c'est vrai.
Pour conclure cette interview, nous avons toujours une question qui s'adresse à vous deux, qui est pourquoi êtes-vous devenu directeur de cette centre ?
Est-ce qu'on aurait pu faire autrement déjà ? On aurait pu refuser, bien sûr, mais moi, je pense que c'est une vocation là aussi. On a envie de donner le maximum, on peut garder. Voilà, moi j'ai un travail à côté, je suis artiste avant tout, je chante, je joue, je produis, j'ai des spectacles un peu partout en France déjà et en Europe, mais il y a une vocation de développement de la culture au niveau local. Donc voilà, c'est pour les gens d'ici, c'est pour notre public, pour vous, pour nous, pour le futur et pour nos générations à venir. Donc voilà, c'est un peu une vocation.
Ouais, c'est même la notion d'engagement, en fait. Vous disiez que la culture, ça amène un souffle nouveau. Si on ne se bat pas, nous, en tant que citoyens, en tant que jeunes, en tant qu'adultes, dans l'intergénérationnel, pour cette culture, c'est quelque chose qui viendrait à mourir. Ça, je pense qu'on en a besoin. Moi, je vais prendre un exemple. Quand le Covid s'est terminé, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir un concert. C'était Wizkid, je m'en souviens. Et ce n'était pas forcément d'aller me balader, boire un verre ou d'aller en campagne ou me balader au milieu de la foule. C'était vraiment d'aller en direction de la culture. Donc, c'est une vocation, c'est un engagement. Et moi, je ne peux inviter que la jeunesse à vraiment aller dans ce sens-ci de tenter un petit quelque chose, MJC, Apollo, partenariat ou autre, monter une asso, grandir. Tous les grands festivals ont commencé comme ça aussi, par exemple. C'est la volonté d'un animateur, d'un directeur, de la jeunesse, et de se dire, voilà, on fait un petit concert, et puis ça prend de l'essor, et puis la MJC porte du coup un festival, qu'il soit culturel ou autre, et qui sait même des fois d'arriver à une production artistique qui fasse que vous deveniez les artistes de demain. Donc c'est cet engagement citoyen auquel moi je tiens aussi particulièrement, je pense au même titre que Mathieu.
Au revoir et merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous les jeunes de nous avoir reçus et longue vie à votre travail radiophonique.
Merci à Erika, Lilou et Ilem pour cette interview croisée. On donne maintenant le micro à Myriam et Jennifer pour la suite de notre émission. Nous aussi nous allons souvent à l'Apollo, mais cette année nous sommes allés au théâtre à la Bruyère.
Bonjour, nous sommes Jennifer et Myriam et on a réalisé notre première critique théâtrale et on va vous la présenter. On va vous proposer de découvrir la pièce de théâtre théâtrale qu'on a regardée avec notre classe de 3e à La Bruyère au centre culturel Le Rond-Point.
Cette pièce s'appelle Bem-vindo qui signifie bienvenue en portugais. La comédienne s'appelle Hélène Marquez, qui est aussi professeure de théâtre à Castres. Elle est accompagnée d'un musicien qui s'appelle Yannick Arnaud. Elle raconte une histoire personnelle, mais dans laquelle beaucoup de gens peuvent se reconnaître.
On va vous résumer un peu la pièce. Hélène joue deux rôles, celui de sa mère née au Portugal et son propre rôle, celui d'une femme née en France, mais dont les parents ont immigré ici. Dans cette pièce, elle décide de prendre ses valises et de partir au Portugal. L'autre comédien, Yannick, est musicien et joue l'accordéon pendant le spectacle.
Le décor est assez simple. Il n'y a pas beaucoup d'éléments sur scène, mais ça suffisait pour comprendre les lieux et l'ambiance. Les lumières sont assez discrètes, mais elles changent selon les émotions et les scènes. On voit aussi l'accordéoniste sur scène, ce qui rend le spectacle vivant. Le jeu d'Hélène Marquez est naturel. Elle parle parfois directement au public, des fois dans sa langue d'origine qui est le portugais, ce qui donne l'impression qu'elle nous raconte son histoire à nous.
Notre avis personnel, c'est que c'est une pièce intéressante qui parle des stéréotypes et des différences entre le Portugal et l'Espagne. Il faut rester concentré car sinon on peut vite se mélanger entre deux cultures similaires. Elle se sent différente car elle a le sentiment d'être étrangère, différente des autres. Notre première impression en sortant de la salle, c'était de la réflexion et de la curiosité. Ça m'a donné encore plus envie d'aller voir d'autres pièces, mais surtout de découvrir cette culture.
Le moment qui nous a le plus marqué, c'était quand elle parlait en portugais et quand elle prenait des valises pour partir au Portugal. C'était amusant de la voir prendre autant d'affaires comme si c'était un voyage improvisé. En voyant les personnages, j'ai ressenti de la similitude car moi aussi je pars tous les étés dans mon pays d'origine, le Maroc.
De même quand les personnages changent de langue, car régulièrement chez nous, nos mères parlent souvent dans leur langue natale. Je recommanderais cette pièce à tout élève curieux, car peu importe notre origine, on peut trouver des ressemblances avec nous ou notre famille.
Nous avons fini notre critique théâtrale. Merci de nous avoir écoutés.
Merci à Myriam et Jennifer pour cette critique théâtrale. Mais aujourd'hui, nous avons passé la journée au PAC d'Océan et nous avons réalisé la préparation, les montages et les enregistrements. Maintenant, vous allez écouter le reportage réalisé dans le château de la Falgarlarié, où est situé le pôle d'art et culture d'Océan, qui sera suivi d'une interview du personnel et d'une bénévole.
C'est pour colorier, pour cacher mes cheveux blancs. Ah.
L'an dernier, je ne sais pas si c'est le temps, mais j'en ai pas eu des masses. Donc c'est autant de sang que j'ai pris les autres là.
Oui, ça, je sais pas.
Que les griffés. Vous êtes là pour vendre. Là.
Oui, voilà, moi c'est ma première année. Attendez,
c'est la première année, mais je la ramasserai.
Mais si, j'arrive.
Venez. C'est la première année.
Bah oui, c'est mon troisième marché, alors vous voulez que je la calme?
C'est bon.
Nous venons de visiter le marché d'Océan qui ramène beaucoup de personnes qui viennent acheter, faire des emplettes, etc. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Océan et nous avons vu plusieurs choses différentes, que c'est très, très attractif. Nous sommes aujourd'hui au château de la Falgarlarié à Océan, qui est en face du marché. Au château de la Falgarlarié, il y a des expositions de tout genre. Nous allons visiter ce château. Nous sommes avec Étienne Garagno. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, je vais bien, merci. Et vous?
Ça va. Que faites-vous au château de la Falgarlarié?
Alors ici, on est au château de la Falgarlarié. C'est le lieu qui accueille le PAC, le Pôle Art et Culture d'Océan. C'est une association qui est dédiée à l'art et à la culture et aux pratiques amateurs. Elle a différentes missions. C'est proposer 4 expositions d'art contemporain, notamment envers des jeunes artistes émergents, mais pas que. Et elle propose aussi des ateliers de pratiques amateurs toutes les semaines et toute l'année de dessin, peinture et sculpture. Ah oui, je peux vous faire découvrir l'exposition qui est en cours, qui s'appelle Cabane intérieure, de l'artiste Lise Lillo, qui nous présente du coup voilà, cette exposition jusqu'au mois de mai.
Volontiers.
Cette exposition, du coup, qui s'appelle Cabane intérieure, présente un travail qui est photographique et aussi des installations. Vous avez toute une série de photos qui s'appelle Habit A. C'est un jeu de mots entre l'habit, le vêtement, et la lettre A qui fait l'habitat, d'où la référence à la cabane. C'est une artiste qui, dans son propos, en fait, considère que le vêtement est notre premier habitat. Et il y a tout un parallèle entre un jeu avec l'intérieur et l'extérieur. On peut se déplacer et aller dans d'autres salles. Donc on a une deuxième salle, enfin on a trois salles en tout d'exposition. Donc les installations et les photographies sont installées dans les deux premières. Mais on a également une troisième qui est dédiée à la vidéo. Une série de photos réalisées sur un lac gelé. Qui est présenté. Mais on a également, du coup, aussi une série de micro-architectures que l'artiste nous présente. Donc, c'est en fait des morceaux, des fragments de bois qui sont recyclés, qu'elle assemble. Et sur ces fragments, en fait, elle vient coller une photographie. Donc, c'est issu de ses photos personnelles. Et en fait, l'idée de ces fragments est qu'on retrouve en fait des morceaux de paysage à travers ces micro-architectures. En fait, ça fait référence à un souvenir un peu qui est effacé. On a tous un souvenir de vacances mais c'est toujours un peu flou. On a toujours des petits détails en tête, mais on n'a jamais de la scène globale. Donc c'est une série qui fait un peu écho à ce genre de choses. Voilà.
Peut-on voir ça comme une réminiscence ou un souvenir?
Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est parfaitement. Là, justement, là, par exemple, ici, ça, c'est une œuvre qui fait... on parlait justement tout à l'heure d'intérieur-extérieur. Celle-ci, elle est très parlante parce qu'on a, du coup, ce mobilier qui, du coup, une table qui devait probablement être posée contre un mur. En fait, là, elle se retrouve couchée au sol. Et on voit également qu'une impression photo a été collée par-dessus. Et sur cette photo, en fait, c'est une texture de pierre, de minéral. Et donc, on a ce parallèle entre le mobilier intérieur et une photo d'un minéral extérieur. Et le tout, en fait, une sorte de mise en abîme. On a ce mobilier qui est couché. Et en fait, de loin, on pourrait penser que c'est un rocher qui sort de terre. Cette exposition, elle dure jusqu'au 22 mai et il est possible de venir visiter du coup cette exposition au château le mercredi matin et les jeudis et vendredis, toute la journée.
En tout cas, c'est une atmosphère agréable et il y a beaucoup d'expositions, c'est très chaleureux.
Merci, on fait tout pour. Je vous invite à vous balader dans l'exposition. Merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.
D'accord, je vous remercie.
Merci pour ce reportage. Maintenant, retour sur le plateau. Amélie et Shiraz ont préparé une dernière interview.
Donc, je vais commencer par Laure Coquille. Où est-ce que le château se trouve ?
Alors, bonjour. Le château se trouve à Ossillon, dans le quartier de la Falgalarie. On me posait la question tout à l'heure de savoir Ossillon, c'est quoi cette ville ? Ben, en fait, c'est une ville où il y a plusieurs quartiers. Le quartier où nous nous trouvons, le quartier où il y a la mairie, et puis Ossillon Village, qui est au bord de la montagne. Et ici, le pôle agriculture se situe dans un quartier très particulier, parce qu'il est constitué de nombreuses communautés qui viennent du monde entier. Voilà. Et notre rôle à nous, c'est d'exister dans cet environnement multiculturel.
Vous êtes bénévole dans le PAC. Elle a été créée en quelle année ?
Alors, donc, le PAC, c'est une association qui a été créée en 1986. On va fêter les 40 ans cette année. Bon, moi, je n'y suis pas bénévole depuis 40 ans. Hein. Et d'ailleurs, la personne qui a créé ce lieu est décédée il y a 2 mois à peine. Donc on va fêter les 40 ans cette année du pôle agriculture. Le but de cette association, c'est de promouvoir les artistes locaux, c'est-à-dire de montrer les gens qui créent et qui sont pas loin du château, d'autres qui sont un peu plus loin, mais surtout de la région. et des artistes amateurs, puisqu'il y a des cours pour les amateurs ici, avec des professeurs qui viennent de Castres, ou enfin, pas forcément de Mazamé, voilà.
Quel est le personnel du château ?
Alors, le personnel, c'est Étienne, on va dire. nous sommes une association qui vivons avec des subventions, les subventions de la mairie, notamment. Merci, d'ailleurs, à la mairie. Le château est prêté par la municipalité. Nous avons une subvention qui paye le salaire d'Étienne et l'électricité et le chauffage qui sont aussi payés par la municipalité. Nous avons également des subventions de la région et des subventions du Tarn. Voilà. Nous espérons développer petit à petit nos subventions et avoir des subventions ministérielles de la DRAC, du ministère de la Culture.
D'accord. Dans la ville, quelle est la place des bénévoles dans le château ?
Alors, donc Étienne est salarié. Moi, je suis vice-présidente ici. Il y a une présidente, une secrétaire bénévole hein, aussi, et un trésorier. C'est tout. Donc, nous sommes essentiellement la présidente et moi-même, ainsi qu'Étienne, qui, pour faire fonctionner cet établissement, enfin, cette association.
Pourquoi avez-vous voulu être bénévole dans le château ?
Alors, la présidente a fait l'école du Louvre, et d'ailleurs, elle est journaliste pour Beaux-Arts Magazine. Et c'est une amie d'enfance, on était à la maternelle ensemble. Et un jour, je suis venue à un vernissage, elle m'a demandé de l'aider dans ce combat, puisque nous menons un combat, je pourrais dire. Et j'ai accepté. Voilà, donc je suis rentrée dans l'association pour faire fonctionner, pour la faire fonctionner, oui.
Et quel est le lien avec votre autre métier qui est professeur d'art plastique ?
Alors déjà, j'ai plusieurs casquettes. En fait, moi, j'ai fait les beaux-arts. J'ai longtemps été artiste. J'ai beaucoup exposé. J'ai un désir de créatif. Et ici, je joue un rôle créatif dans le sens où je crée des projets. Je crée des projets avec les structures départementales, comme Médiatarn, par exemple, le Centre d'Art Lelay, ça peut être aussi l'Espace Apollo, bon, voilà, avec beaucoup de structures, et le Collège Marcel Pagnol, dans une situation, justement, voilà, où on essaie de faire profiter les élèves, des artistes qui viennent ici, de les faire rencontrer, de les amener à vivre des situations de culture.
Bon, merci pour d'avoir répondu à ces questions et je laisse la place à Shiraz pour poser les questions.
Bonjour, je vais interviewer Étienne Carino. Bonjour, comment allez-vous ?
Je vais bien, merci.
Comment êtes-vous devenu un artiste ?
Un peu par hasard. Les écoles, enfin, disons, le parcours scolaire traditionnel n'était pas trop pour moi. Je me suis longtemps cherché. Et un jour, par hasard, assez tardivement, en première, j'ai découvert qu'il était possible de vivre de sa passion, et notamment du dessin et des arts. Et donc, j'ai intégré une classe préparatoire à Castres avant d'intégrer les écoles supérieures d'art à Tarbes, et où j'ai réalisé ma licence et mon master.
Donc, vous avez fait plusieurs œuvres, mais quelle est votre œuvre la plus connue ?
Alors, je suis pas ce qu'on appelle un artiste connu, mais déjà, un artiste, c'est déjà pas mal. Mais si, probablement que l'œuvre qui a parlé le plus, c'était un visage de pierre que j'ai réalisé dans la montagne. C'était un visage de 3 mètres de haut j'avais mis un mois à le construire dans la montagne sans autorisation et ça avait fait un peu parler ça avait fait un peu, j'avais quelques articles dans la Dépêche et autres.
Pouvez-vous nous dire ce qu'est l'art contemporain ?
Question n'est pas facile. Mais pour faire simple, chronologiquement, l'art contemporain, il est arrivé à partir des années 1950. Je peux vous dire aussi que voilà, sur l'origine du mot, c'est le contemporain veut dire des temps présents, donc d'aujourd'hui, donc ça serait un art d'aujourd'hui. Ce qu'on peut dire après, c'est que c'est un art libre. À partir des années 1950, les artistes ont voulu s'émanciper un peu du beau et donc ont développé plein de choses. Et du coup, si je devais le résumer, ça serait voilà, un art où les artistes font un peu ce qu'ils veulent, que ce soit en termes de support, peinture, sculpture, numérique. Et s'ils ont envie de faire du beau, ils en font. S'ils n'ont pas envie, ils n'en font pas. Voilà. Un art libre.
Pourquoi avez-vous fait l'association au château ?
L'association au château, moi, je suis arrivé depuis 4 ans. On ne l'a pas vraiment choisi. C'était la mairie qui a mis à disposition ce château il y a plus de 20 ans. Et donc, c'était un espace disponible et une association s'est installée. Aujourd'hui, il y a 3 associations dans ce château.
En tout cas, notre but, c'est d'utiliser la culture comme moyen de communication et comme acte citoyen. Voilà. Pour nous, l'art et la culture, c'est vital. Et on développe ça et on essaie d'ouvrir le château au plus grand nombre pour justement développer cette idée-là, voilà, avec vous les jeunes comme avec les habitants du quartier.
Merci beaucoup à vous Étienne et Laure Coquiel.
Avec plaisir, merci à vous.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Elle a été réalisée par la classe de 3e 3 du collège Marcel Pagnol de Mazamé, accompagnée de notre très cher professeur de français, Madame Dumont, ainsi que l'association Mediatarn et la radio Air d'Otan. Merci à Étienne et au pôle Art et Culture d'Océan de nous avoir accueillis toute cette journée du 16 avril 2026. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.airdotan.fr. Merci à vous pour votre écoute. À une prochaine fois, au revoir.
Ici, la culture pour quoi faire, notre regard d'ado.
Vous venez d'écouter une émission spéciale réalisée par Radio Air d'Otan dans le cadre de la résidence journalistique Flux, conçue et coordonnée par l'association Mediatarn et menée auprès des élèves de 3e 3 du collège Marcel Pagnol de Mazamé. Un projet soutenu par le conseil départemental du Tarn et par la DRAC Occitanie dans le cadre de son appel à projet éducation aux médias et à l'information. Merci aux élèves et à leurs professeurs de français Clémence Dumont pour leur travail. Merci à l'équipe de Mediatarn pour ce projet mené avec notre radio. Merci au pôle Art et Culture d'Océan pour son accueil dans ses murs en cette belle journée du 16 avril 2026. Et merci tout particulièrement à Étienne Carreno, chargé d'accueil et de médiation, et à Laure Coquille, sa vice-présidente et également enseignante d'art plastique au collège Marcel Pagnol. Et enfin, merci à vous pour votre écoute.
Les ateliers pédagogiques, c'est sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. Mmh.